Voilà, Paris, ça. Oui, ça va. Alors, la caméra passe.
What is this, Connor?
Easy, easy, old man. She's not hurt?
No.
No, wounded,
sir. Che fa? Aggredisci.
Ma sta tappando, che fa?
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fattifisce? Come fattifisce?
Bonjour à toutes et à tous, cinéphiles du vendredi, grands enfants, enfants rois et petits empereurs, bienvenue. Vous écoutez Cinémascope, le magazine qui ausculte l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche. Quelle bonne idée! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager le studio avec Mathieu et Olivier. Et
ouais.
Salut messieurs.
Salut.
Salut.
Et bien sûr, Sylvain Omelette.
Salut.
Et bah, c'est eux qui vont bosser. Hein. Moi, je vais rien faire, je vais juste écouter, vous entendre parler des films Napoléon, Le Garçon et le Héron, film de Miyazaki, et Migration, Rontonton et Ropognon. Allez, on part fort.
But I follow in the footsteps of Alexander the Great and Caesar.
What is your name?
Napoleon.
As the course of my life has changed. Napoleon.
I must warn you. I will not lead a second in command. I will win by fire. I am destined for greatness.
I found the crown of France in the gutter and placed it atop my own head.
You want to be great. But you are nothing without me. Say it.
I believe I speak for all of us. We will all sleep again without this vermin.
Whose country are we in?
Oh là là, il y a la musique, il y a du spectacle, Ridley Scott, Napoléon avec Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby, Tarim aussi, lui-même. Tu es allé le voir, Mathieu.
En effet, je suis allé le voir hier. Et c'est la bande-annonce me fait doucement sourire parce que c'est exactement tout le contraire de l'ambiance du film. Ah. On sent la bande-annonce pour faire vendre, mais
oui,
c'est comme
ça,
c'est
carrément.
Le jeu. Avec la grosse musique épique et tout.
C'est pour ça. Alors, je l'ai coupé encore la bande-annonce, hein, mais j'ai laissé justement cette musique. Je me suis dit, wow, musique épique, mais ça faisait aussi un peu musique pop. Enfin,
ouais,
je sais pas.
C'est très, musique très, très actuelle pour un sujet voilà, qui est dans le fond qui est. Mais... Donc, c'est en fait, voilà, c'est le dernier film de Ridley Scott. Je crois que le dernier qu'il avait réalisé, c'était Le Dernier Duel, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est un film de fiction, c'est une fresque. On va suivre l'histoire de Napoléon, de son ascension jusqu'à sa chute, de l'empereur Napoléon Bonaparte, séquencé, hein, ça sera vraiment avec certaines dates, certains éléments clés, ils n'y sont pas tous, déjà que le film dure 2h30 passé. Et donc tout cela à travers ses rapports passionnels et tourmentés avec Joséphine, qui est le grand amour de sa vie. Ce film, il fait beaucoup polémique, il fait beaucoup parler de lui. Du coup, ça contribue à faire presse, bonne presse, à faire de la pub. Donc, il a mauvaise presse, mais ça lui fait beaucoup de pub et beaucoup. Le box-office marche très bien, en tout cas en France pour lui. Et en sortant de ce film, je m'attendais à être ne pas savoir un peu ce que j'ai vu, quelque chose qui est en contradiction avec les réalités historiques, ou on a parlé des jeux d'acteurs qui n'étaient pas terribles, bref, mauvaise presse ce film. Et je suis allé le voir, et j'en ressors avec une très bonne expérience de cinéma. En fait, déjà, il faut relever que quand le film commence, ce qui choque le plus, c'est l'image. Ridley Scott, il s'est inspiré, on le sait qu'il y a beaucoup de tableaux qui ont été peints sur... les éléments clés de la vie de Napoléon, son sacre, etc. Et c'est repris dans le film, on voit même les peintres. Il y a vraiment une fidélité à l'image et un travail qui est époustouflant. Voilà, déjà juste en termes de cinéma, voilà. Allez le voir en salle, que ce soit pour l'ambiance sonore, pour la composition d'image, l'éclairage. C'est des tableaux vivants, un peu désaturés. On n'a pas l'habitude de voir ça et c'est très beau, voilà. Ensuite, là, je parle vraiment des choses qui font que je pense que ça mettra un peu tout le monde d'accord, mais il y a aussi des choses qu'on ne voit plus trop souvent en ce moment au cinéma, c'est les scènes de bataille. Et les scènes de bataille, elles sont tellement bien réalisées, je trouve. C'est tellement rare de voir où on se dit, mais waouh, mais par exemple, les chevaux, mais comment ont-ils fait pour faire ça? On ne voit pas le numérique. On a des scènes qui en font pas trop. C'est pas le Seigneur des Anneaux avec des choses où on sent des incrustations. Non, là, on est dans une réalité. C'est assez intrigant de savoir comment ils ont fait ça. Et la place des batailles dans ce film, et je trouve qu'il y a un équilibre qui est très juste entre les à côté de l'empereur et les batailles qui font que ça façonne sa vie. Chaque bataille correspond à un tourment psychologique qu'il ressent. Voilà. Un moment, donc, en fait, pour parler, on peut pas parler des tourments sans parler du jeu d'acteur. Joaquin Phoenix, j'ai lu dans une interview de Ridley Scott qui le dit lui-même, c'est assez, assez passionnant parce que Joaquin Phoenix apparemment a lu le scénario. Et normalement, on attend une direction d'acteur assez forte pour ce genre de film. Et il y a Ridley Scott, grosso modo, qui lui a dit « Comment tu le sens, toi ? Essaie de faire ton jeu. » Et il a fait plusieurs jeux. C'est lui qui a proposé. Joaquin Phoenix a proposé un jeu à partir de la vision de Ridley Scott. En tout cas, je crois que c'est pas lui qui a écrit le scénario, mais en tout cas, voilà, c'est sa vision. Et du coup, on a un Bonaparte qui est totalement... réincarné en fait dans un acteur. On s'éloigne peut-être du Napoléon Bonaparte dépeint dans les livres, et je pense que c'est ce qui dérange beaucoup.
C'est une
forte interprétation.
C'est ça, enfin, je veux dire, Napoléon, c'est un personnage historique tellement important, pas qu'en France, enfin, je veux dire, il a eu un impact sur toute l'Europe, et donc c'est quand même un peu casse-gueule de... parce que là, ce que tu sembles dépeindre, c'est peut-être un bel objet de cinéma, mais alors, c'est ce que je disais hors antenne, hein, peut-être si ce film s'était appelé Panoléon ou je ne sais pas quoi, enfin, en fait, s'éloigner juste un tout petit peu, ne pas prétendre faire un film sur Napoléon, est-ce qu'il tient ses promesses?
En fait, en termes de cinéma, il tient ses promesses. Moi, comme je disais en off, si j'étais historien, et d'après ce que j'ai entendu, parce que malheureusement je ne peux pas argumenter dessus, si j'étais historien ou professeur des écoles à vouloir montrer ce film à mes élèves, c'est l'exemple un peu concret, ça serait dérangeant, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses, des choses qui sont mises en scène pour donner de la consistance au film et servir l'histoire. Et ça, je le comprends tellement. Quand on a une belle histoire, on veut l'embellir, c'est vieux comme le monde, je le comprends.
Par exemple, là tu parles de quoi? De l'histoire avec Joséphine?
Juste pour pas quand même spoiler le film, par exemple, dès l'ouverture du film, on a Marie-Antoinette qui se fait guillotiner, donc c'est les dernières têtes qui tombent, et on voit Napoléon qui est encore, il est pas encore général des armées, mais en tout cas il est bien gradé dans l'armée, et qui regarde la scène. On voit, en fait, c'est très fort comme moment, très très fort. D'ailleurs, ça fait longtemps que dès l'ouverture d'un film, j'ai pas ressenti de l'effroi face à quelqu'un devant une guillotine. La mise en scène, je trouve ça incroyable, mais c'est faux. Voilà, Napoléon n'a jamais été là. Regardez, il était à des kilomètres et des kilomètres, mais ça sert l'histoire. Et des fois, il y a des choses qui sont, on fait grincer des dents, mais c'est international. On parle d'autres, on parle de l'Égypte, on parle des pyramides de Gizeh. C'est là, ça va trop loin. Mais en termes de cinéma, c'est tout simplement époustouflant. Ce film, l'erreur qu'il a fait, c'est de s'appeler Napoléon et d'être mis en scène comme une réalité historique de Napoléon. Alors que ça ne l'est pas. Il aurait pu s'appeler...
Librement inspiré.
Voilà, et exactement. Je pense que... Voilà. J'ai parlé des batailles, mais en termes aussi d'histoire, je trouve que ce film est extrêmement bien écrit, en fait. 2h40. Regarder un film sans regarder la montre, en se disant, en fait, j'étais avec trois autres personnes, on ne s'est pas ennuyé une seconde. Et il y a beaucoup de romance, il y a un amour passionnel avec Joséphine, et c'est montré d'une façon, c'est passionnant, en fait. C'est super bien écrit.
Et toi, tu aimes les histoires d'amour au cinéma.
Exactement. Et je suis très friand de ça. Et là, c'est une histoire d'amour qui n'est pas à l'eau de rose, qui est...
Oui, non, c'est sûr.
Il y a quelques scènes qui sont très comment dire, qui sont osées, voilà, pour montrer Napoléon comme
Joséphine.
Ça, qui sont très très osées et le
osées.
Et du coup c'est ça, et le truc, c'est que on a on a son histoire d'amour qui va s'interpréter dans les batailles, c'est-à-dire c'est une histoire d'ego. Il a la femme qu'il trouve la plus belle femme du monde, sa femme, elle est à elle, il lui fait bien comprendre, et en même temps sa femme montre que sans elle, il n'est rien. Ça crée une alchimie assez incroyable. Et le jour d'ailleurs où, ça c'est l'histoire, elle n'a jamais pu lui donner d'héritier, et il va être obligé de s'en séparer, et bien sûr, quand il s'en sépare, c'est là où il va perdre cette fameuse bataille. Est-ce que c'est romancé pour le film? Sûrement. Est-ce que c'est bien raconté? Je trouve, oui, c'est vraiment très bien raconté. Et que dire d'autre sur ce film? Si vous voulez un film grandiose, époustouflant, allez au cinéma parce qu'il se mérite en salle. Voilà.
Eh ben merci. Je pense que les exploitants de cinéma ici en Sud-Ardèche te remercient.
Oui, c'est ça. il m'a donné envie d'aller voir
mais
ce
moi
film.
Aussi.
Moi qui déteste le personnage déjà de Napoléon. Bon, la fidélité historique... Peu importe, on va au cinéma pas pour apprendre de l'histoire, on va au cinéma pour voir des films. Hein.
C'est ça.
Donc c'est assez secondaire. Mais moi, j'aime pas le personnage, et donc j'aime pas en entendre parler. Mais là, effectivement, vu comme ça, avec quelques petites mises au point sur ces effets néfastes dont nous parlait Mathieu, encore une fois, hors antenne, moi, ça me donne envie de peut-être éventuellement faire le déplacement pour voir du cinéma, effectivement.
Exact.
Ouais. Parce que, je rebondis justement, effectivement, on va pas au cinéma. Enfin, la relation entre histoire et cinéma, c'est une longue relation. On ne va pas forcément au cinéma pour voir des faits historiques précis, bien réels, etc. Cependant, tu nous disais, Mathieu, je ne connais pas bien l'histoire et ça m'a donné envie, et c'est ça l'important,
exact.
Ça m'a donné envie de m'y replonger et de voir vraiment ce qui est réel et ce qui ne l'est pas.
Ouais,
voilà.
Ouais.
Donc ça, c'est vraiment... très important. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Donc, Napoléon de Ridley Scott, c'est à voir à Aubenas, à Cruas, au Teil et à Priva. On s'éloigne. On prend un peu de champ.
Pourquoi ça ?
Mahito-san, ikimashō.
On vient d'entendre le héron et le garçon, plutôt le garçon et le héron de Hayao Miyazaki, un jeune homme de plus de 80 ans. C'est un peu la mode, c'est revival, c'est tellement d'actualité d'avoir 80 ans et de faire du cinéma aujourd'hui.
Oui, hein, Coris Mackie, Ken Loach, etc.
Bellocchio. Alors et Miyazaki. Alors qu'est-ce que ça donne Olivier, alors, tu es donc allé voir ce dernier.
On en parlait aussi hors antenne. Il y a beaucoup de fans de Miyazaki. Et moi, j'ai l'âge d'avoir été fan en y emmenant fan, c'est-à-dire mes enfants. C'est-à-dire, j'ai toute la filmographie de Miyazaki. Comme j'ai des enfants de 30 ans et des enfants de 20, j'ai toute la filmographie y est passée, quoi.
Mais même pour toi, parce que...
Alors, bien sûr, moi aussi.
Nausicaa, la vallée du vent, 84, tu pouvais y aller pour ton bon plaisir en étant tout jeune.
C'est vrai que ça traversait le temps.
Tu me rajeunis quand même là un petit peu.
Les auditrices et les auditeurs ne te voient pas vraiment.
Oui, bon, enfin, toujours est-il qu'on y va avec des fondamentaux de Miyazaki dans la tête, que ce soit les plus anciens comme Mon voisin Totoro ou les plus récents comme Le vent se lève, merci Sophie. Et puis, alors bon, j'ai pas envie de faire une espèce de démontage, mais l'impression, Mathieu parlait d'expérience de cinéma à propos de Napoléon, eh bien, moi, j'ai pas eu une expérience de cinéma agréable, en l'occurrence. C'est-à-dire, le film est long, moins long que Napoléon, mais paraît déjà très très long, il fait un peu plus de 2 heures, voilà. Alors, comment résumer ça? On a l'impression qu'il y a du matériel pour faire 3 ou 4 films d'animation d'une heure et demie. On a l'impression qu'il y a du matériel pour faire une série d'animation pour les plateformes ou pour une télévision sur une année. Où on irait dans différents univers. D'ailleurs, il y a cette thématique du changement d'univers, de passer d'un univers à un autre, de celui des vivants à celui des morts, de celui des vivants d'un certain genre, bon, etc. Donc, il y a cette impression-là. Il y a un moment donné dans le film, un vieux monsieur, je vais pas divulguer quoi que ce soit, il y a un vieux monsieur dont le travail consiste à faire tenir ensemble une tour qui est faite de cette tour de petits éléments, genre une sphère, une pyramide, un parallélépipède, enfin, etc. Mmh. Et il faut qu'il... Et ce monsieur-là, en tenant cette tour, il tient le monde entier, il tient l'univers en entier. Et il n'y parvient pas à faire tenir cette tour, et c'est tout le problème. Il lui faut un héritier pour l'aider à faire tenir cette tour qui symboliquement est l'univers. Et ben, moi, j'étais pas tout seul d'ailleurs, j'ai pas pu m'empêcher de voir Miyazaki en ce vieux monsieur. Mmh. Et la tour, ben, c'est son film. C'est-à-dire qu'il essaye de faire tenir ensemble des éléments assez hétérogènes, et à l'arrivée, ben, ça tient pas vraiment ensemble, et on a l'impression de subir plutôt une accumulation d'images, une accumulation d'histoires, plutôt que de suivre un fil initiatique.
C'est trop plein, c'est gavé en fait. Oui. Pour les fêtes, c'est foie gras.
J'ai l'impression que, oui, mais avec en plus une hétérogénéité. Alors, à sa sortie, on peut dire que le film a été long, 7 ans pour l'élaborer, 60 dessinateurs. Enfin bon, il a dessiné des choses aussi, bien sûr, naturellement, mais bon, c'est beaucoup, beaucoup de monde. C'est une grosse entreprise qu'on a attendue, qui a été remise. Il dessine à peu près 10 fois moins vite qu'au début de sa carrière quand il était jeune, donc voilà, et on a l'impression que le film était tellement attendu qu'il était pré-accueilli d'une certaine manière. Il a fait l'ouverture du 48e festival du film de Toronto, par exemple, voilà. Donc et on a, excusez-moi, mais j'ai eu un peu l'impression en parcourant les critiques que les gens voulaient pas se dédier, c'est-à-dire d'une certaine manière on l'a tellement attendu, on va pas maintenant dire que c'est pas bien fait.
Et un Miyazaki ne peut pas être mauvais.
En plus, bon, il y a aussi toute une presse autour du fait que c'est probablement son dernier film, vu le temps qu'il met pour en faire un, que ce film est plus ou moins dédié à son petit-fils, donc ce sera quelque chose d'un petit peu. Il partage, lui, Miyazaki, son histoire aussi. Le film, il est un petit peu inspiré, puis on trouve le livre dedans d'un livre de, alors le mot japonais, hein, Genzaburo Yoshino, et vous, comment vivrez-vous? Donc ce livre, il est le héros, il y a une mise en abîme, mais en même temps, explicitement, le film est aussi basé sur une histoire de John Connolly, qui s'appelle Le Livre des Choses Perdues, qui est paru en 2006. Mmh. Et puis, il y a aussi l'histoire de la tour, parce que la tour, il n'y a pas que la tour en jeu, il y a aussi une vraie tour dans le film. Ah, oui, c'est une histoire qu'il a tirée d'un autre auteur japonais, Edogawa Rampo, qui est un auteur de polar, mais avec une certaine profondeur psychologique. Donc, rien qu'au niveau de l'inspiration, c'est trois livres, un film. Ah. Mmh. Voilà, donc ça fait beaucoup déjà et ça se ressent. Mmh. C'est-à-dire, on a du mal à faire tout ça tenir. Alors, c'est d'autant plus gênant d'une certaine manière que dans chaque catégorie de jeu, si on peut parler comme ça, ça atteint une espèce de perfection. C'est-à-dire, quand Miyazaki veut rendre compte du Japon de l'avant Seconde Guerre mondiale ou de la Seconde Guerre mondiale, comme dans Le Vent se lève, il y parvient avec quasiment la perfection. On y est, quoi. L'ambiance est palpable, les détails, même ils sont, évidemment, on connaît le soin que Miyazaki peut apporter aux détails. Bon, quand après il bascule du côté de son shintoïsme fantastique, un peu aux couleurs un peu pastel, etc., ben c'est pareil, son imagination est débordante de monstres nouveaux, enfin etc. Bon, alors, à chaque fois c'est bien fait, mais...
C'est pas le problème, en fait, c'est l'ensemble.
Voilà.
Moi, je m'en souviens, ça remonte à des années, son dernier film, Le Vent se lève, après ça, il avait dit, voilà, c'est mon film testament, genre, en tout cas, il l'arrêtait, mais il était tellement, je veux dire, droit dans ses idées, il disait, je suis à la retraite. Voilà, il n'attendait plus de rien, et après, la presse avait fait tout un... il revient, il fait son dernier film. Est-ce que dans ce film... C'est pas un peu l'œuvre qui part dans tous les sens, l'œuvre qui laisse parler son esprit créatif sans vraiment donner de sens? Est-ce que c'est pas... Il jette tout ça sur le papier, il donne le meilleur dans tout ce qu'il a, dans tout ce qu'il veut raconter, mais est-ce que derrière, il faut y ressortir quelque chose ou juste... voilà, est-ce que tu t'as senti que c'était quelque chose, une œuvre comme... Est-ce que, par exemple, par rapport à tous les Miyazaki que t'as vus, tu peux le rapprocher à un film qu'il a fait?
Non.
Ou voilà, il est vraiment...
Je le rapproche de tous. Je le rapproche de tous, et justement, je trouve que c'est comme s'il nous avait livré une encyclopédie. Alors, tu te retrouves avec une très belle encyclopédie sur les bras, mais ça fait lourd, quoi.
Mais peut-être que ça ne se regarde pas, peut-être que ça ne se regarde juste pas comme un film de deux heures, mais peut-être comme tu le soulignais au départ. Ouais. C'est peut-être des petites choses à prélever et à mettre en regard. C'est peut-être en fait une œuvre qui doit se désosser et qui peut faire écho à plein d'autres de ses œuvres.
Comme on parlait d'expérience de cinéma. Là, effectivement, ça boite un peu, forcément.
Bien sûr, on ressort un peu désorienté, quoi, de la salle par rapport à ce qu'on a connu en plus.
Exactement.
De son travail.
C'est ça. Ouais. Alors, en plus, avec une chose moi qui me hante chez Miyazaki depuis le début, c'est-à-dire quelque chose de pas net du côté du militarisme et du nationalisme. On sait très, enfin, dans Le Vent se lève, c'était quand même assez palpable. Et là, on a l'impression que, conscient de cette tentation nationaliste et militariste, il essaye de proposer des remèdes. Il y a des thèmes anti-totalitaires, anti-militaristes dans son film. Mais justement, comme ça vient s'ajouter, on finit par... Mathieu parlait à l'instant de est-ce qu'on voit le sens de tout ça? Eh ben non. C'est-à-dire, comme les choses sont accumulées les unes sur les autres, on n'est plus bien sûr du sens que ça a. Un propos antimilitariste, potentiellement, quand le père du héros est directeur d'une usine d'armement, bon, c'est pas innocent. Mais on n'arrive pas à savoir si Miyazaki déteste l'idée de fabriquer des armes ou s'il n'est pas un petit peu admirateur de cet ingénieur japonais parfaitement au point et lui aussi proche de la perfection. Et on sait pas bien.
Et justement, cette complexité-là, c'est pas... Non, enfin, juste montrer la complexité, voilà, de ne pas savoir.
Moi, je ne crois pas.
Non.
Ça paraît pas un projet concerté de montrer la complexité.
De concerter avec lui-même.
Non, je pense pas. Et d'ailleurs, au Japon, la presse est moins laudative d'une certaine manière. Et il a été dit que le film était trop riche, trop complexe, etc. Et il a avoué que lui-même ne comprenait pas son film.
En fait, c'est le projet fou d'un homme qui va bientôt mourir, qui donne tout, quoi. C'est quelque chose de très.
C'est pas bon comme expérience de cinéma, encore une fois, quoi.
Ok. Bon, super. Allez voir vous-même allez faire votre propre expérience, peut-être. Il est à l'affiche à Aubenas. J'ai pas la bande-annonce pour le suivant, mais on reste pour le dernier film, hein, dans le jeune public, avec une animation française de Benjamin Renner, qui était le créateur d'Ernest et Célestine, avec le film Migration.
Oui. Bon, alors là, une expérience. J'ai regretté de ne pas avoir des petits-enfants, puisqu'on parle de ça maintenant. Hein. J'ai regretté de ne pas avoir des petits-enfants pour les emmener voir Migration avec moi. Donc, effectivement, Benjamin Renner avait fait Ernest et Célestine, le grand méchant renard aussi. Ouais. Donc, une animation, un dessin très, très dépouillé. Il vient de la BD aussi, hein. Donc, très, très simple, très. Voilà. Et puis, il passe au studio Illumination, hein, qui sont les mignons, moi moche et méchant, enfin, etc. Donc une toute autre animation avec de la 3D, un autre monde. Et eh bien, on a l'impression, on n'a pas l'impression, moi j'ai la certitude que Benjamin Renner, eh ben, ça a fonctionné de l'autre côté de l'Atlantique avec les studios Illumination, parce qu'on a une petite merveille d'animation, en particulier l'expressivité des animaux, des canards, du perroquet, etc. On a aussi, c'est presque un genre cinématographique, la représentation de New York. Or, ces canards qui migrent, hein, puisque c'est l'histoire d'une migration de canards qui, au départ, ne voulaient pas migrer, ces canards qui migrent, qui vont, donc, bon, on peut supposer, du Canada à la Jamaïque, ils passent par New York. Et alors, leur passage à New York, c'est un grand moment de New York au cinéma, un peu comme Taxi Driver, si vous voulez. Pas tout à fait, tout à fait.
Il y a eu Taxi Driver, et maintenant, il y a Migration.
Migration, ouais. Mais c'est vraiment... bon, quand on aime New York, on est content de retrouver New York sous ces couleurs-là, certains quartiers, et puis évidemment Central Park, enfin, etc. C'est vraiment très chouette, avec même une atmosphère des boîtes new-yorkaises, restaurants new-yorkais, etc. Il arrive à mettre tout ça de manière très très convaincante. Surtout, ce que j'avais envie d'ajouter, j'ai le temps.
Mm-hmm. Oui, bah, bon.
J'avais été, hein, comme j'ai envie de parler des films à destination des très jeunes, et puis de l'animation en particulier, j'avais donc été voir Wish, et j'avais été mais absolument atterré par l'idéologie pourrie, là, à base, dont on l'avait dit, de New Age, de libertarisme, etc., vraiment pas engageant. Et là, au contraire, bon, ça peut paraître peut-être un petit peu mièvre, mais je crois que ça l'est jamais. Et on est dans des valeurs que je trouve, enfin, que j'ai moi plus envie de partager, plus avec mes enfants maintenant qu'ils sont grands, mais avec mes petits-enfants. C'est-à-dire que j'ai pas, c'est un appel, donc, c'est-à-dire des valeurs, bah, tout simplement d'amour, de solidarité, de complémentarité. Les différents personnages du dessin animé ont des tempéraments différents, un plus anime, l'autre plus courageux, l'autre mais prudent d'un côté, et l'autre peut-être un petit peu téméraire, et tout ça se complète dans un mouvement de solidarité, en fait, qui me paraît être un message plus intéressant à diffuser que la satisfaction à tout prix de tous ses désirs.
Ses propres désirs, voilà. Et immédiat,
si possible. Oui. Illico presto,
un clic, même pas.
Alors que là, on a l'évolution des personnages qui font avec leur tempérament, qui le dépassent en direction d'un service rendu aux autres, etc. C'est assez, j'admets, un peu naïf, mais en même temps très beau.
Tu le conseilles pour tous les âges ?
Bon, oui. Il y a des trucs bien qui m'ont bien fait rigoler, alors que, comme on l'a déjà dit, je ne suis plus tout jeune.
Mmh.
J'aime beaucoup le personnage du perroquet, personnellement, le Jamaïcain.
D'accord.
Oui. Mmh. Tout à fait. Je le conseille.
Oui, tu le conseilles. Bah, alors, conseillons le Jamaïcain. On dirait le perroquet. Alors, ça fait très cocktail. Tiens, oui. Je prendrais bien un petit perroquet. Oui, c'était le Jamaïcain. Avec de la grenadine, du curaçao. Bref, à voir à Priva et Aubenas, donc Migration. Vous nous avez parlé de deux expériences de cinéma, finalement. Napoléon et Migration. Et oui. Puis une...
Une tentative légèrement
indigeste, d'après toi, en tout cas. Une info, agenda, ce soir, un ciné-débat autour du film « Rien à perdre » de Delphine Deloger, avec Virginie Efira notamment, qui était présenté au dernier Festival de Cannes. Rien à perdre, qui sera diffusé donc ce soir à 20h15 à Saint-Paul-Trois-Châteaux, donc pour les limitrophes, ouais, c'est un peu loin pour vous albenaciens, mais pas pour ceux qui habitent Gros-Pierre, Les Vents ou que sais-je. Donc ciné-débat, je disais, autour justement des services sociaux qui enquêtent quelquefois quand quelque chose se passe dans une famille. Sujet très important. Je vous lis juste le pitch pour que ça vous donne une idée. Sylvie, donc interprétée par Virginie Efira, vit à Brest avec ses deux enfants, Sofiane et Jean-Jacques. Et une nuit, Sofiane se blesse alors qu'il est tout seul dans l'appart. Les services sociaux sont donc alertés et placent l'enfant en foyer le temps de mener une enquête. Et voilà, et l'histoire commence. Elle, Sylvie, persuadée d'être victime d'une erreur judiciaire, se lance dans un combat pour récupérer son fils, etc. La projection donc, sera suivie d'un échange avec l'avocate Sonia Perrioche et Damien Maes, présidente d'une maison d'enfants à caractère social. Donc voilà, c'est ce soir, autour du film « Rien à perdre » de Delphine Deloget, à 20h15 à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Qu'ajouter d'autre ?
Que paraît-il, Virginie Efira est très bien aussi dans ce film.
Mais
j'ai entendu dire.
Eh ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Cinémascope. D'ici là, bah, plein de cinéma à vous. Bon cinoche. Et puis, merci Sylvain pour la réalisation de cette émission. Ciao.
Ciao, ciao.